Chapitre 26. La beauté d'Aurel était stupéfiante, presque intimidante, vue par les yeux du corps d'emprunt. Les perceptions de son vaisseau influençaient, coloraient les perceptions de Cyriane. Son appartement, qu'il croyait connaître dans les moindres détails, lui était apparu sous un jour nouveau. De même, il avait redécouvert les rues et les places de Paris, le ciel, le métro, les boutiques, les terrasses des cafés auxquelles il avait fini par ne plus prêter attention. Il ne voyait pas les choses de la même hauteur, il ne privilégiait pas les mêmes sons, il n'était pas sensible aux mêmes odeurs, aux mêmes saveurs. Son corps d'emprunt mesurait probablement une vingtaine de centimètres de moins que son corps d'origine, et c'était étonnant de ne plus distinguer le haut du frigo, de se hausser sur la pointe des pieds pour prendre le café ou le sucre dans un placard de la cuisine, de ne plus être obligé de se pencher sur les éviers ou les lavabos. Les impressions qu'il avait ressenties dans le corps de Matty se trouvaient confirmées, accentuées dans la chair de la fille noire. Les êtres humains vivaient tous sur la même terre, mais chacun se figurait que l'univers se résumait à ses seules perceptions, à son seul moi. De là sans doute la plupart des malentendus humains. Si les croyances et les certitudes dépendaient de la façon dont les sens appréhendaient le monde extérieur, comment se mettre à la place de l'autre? Comment un homme pourrait-il comprendre une femme, et vice-versa? Comment un adulte pourrait-il comprendre un enfant? Un noir, un blanc, un chrétien, un musulman, un occidental, un oriental, un jeune, un vieux, un paysan, un citadin. La douche provoquait chez la fille noire d'interminables frissons de plaisir qui naissaient de sa nuque et se prolongeaient jusqu'aux extrémités de ses membres. Une sensation pour elle habituelle et forte, presque douloureuse. Alors que l'eau n'engendrait rien chez Cyriane qu'un vague bien-être, certes agréable, mais anodin. Une bouchée de pain ou d'omelette prenait une saveur étonnante dans la bouche de son vaisseau. Le creux entre les cuisses, les rondeurs et les mouvements de la poitrine, la différence de densité musculaire, la nouvelle répartition des poids changeaient la façon de bouger, de marcher. L'apparition d'Aurel avait glacé d'effroi et d'admiration la fille noire. Aucune raison pourtant qu'elle se sent écrasée. Cyriane avait eu le temps de contempler son corps d'emprunt dans le miroir de la salle de bain et avait été émerveillée par sa peau sombre, aux reflets cuivrés, sa beauté singulière, ses yeux noirs et candides.
« Il ne vous reste plus que 30 secondes, »
dit lui qu'on s'est rencontré il y a quelques jours, et que, comme tu es en attente d'un logement, on s'est mis d'accord pour que tu surveilles mon appartement pendant mon absence.
La fille noire s'exécuta.
Curieux d'entendre sa pensée exprimée par la voix hésitante de quelqu'un d'autre.
L'argument n'eut pas l'air de convaincre Aurel. « Je connais bien Cyriane. Il n'aurait pas fait confiance à une inconnue pour surveiller son appartement. Et surtout pas à... »
« Une noire, » compléta Cyriane. « Le pire, c'est qu'elle n'a pas tort, désolé. Bon, dis-lui que tu n'aurais pas pu entrer dans l'appartement si je ne t'avais pas donné les codes. »«
Je n'aurais pas pu entrer dans l'appartement s'il ne m'avait pas donné les codes. »
Aurel hocha la tête sans se départir de son air suspicieux et alla s'asseoir dans le canapé. « Dis-lui que Cyriane pourra confirmer tes dires dans 3 jours. »«
Cyriane vous confirmera tout ça dans 3 jours. »
Aurel la fixa avec un petit sourire en biais.
« 3 jours ? Largement le temps de faire venir tes amis pour vider l'appartement. »
« Dis-lui qu'une fille intelligente n'est pas censée penser que tous les noirs sont des voleurs. » La fille garda le silence et se contenta de fixer son interlocutrice d'un air farouche.
« Y accouche avec vous ? Hein ?»
La fille noire ne répondit pas. Les échardes dans la voix d'Aurel la blessaient, réveillaient en elle des souvenirs douloureux.
« Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce mec de toute façon ? Je crois même que je lui préfère son père. »
« Oui, bien sûr, le vieux mâle dominant avait obtenu ce qu'il souhaitait. La soumission de la jeune femelle, le marquage de son territoire, la suprématie sur le jeune mâle. Demande-lui si elle a couché avec mon père. » Son corps d'emprunt hésita. Il insista.
Vous avez couché avec son père ?
Des éclats venimeux luisirent dans les yeux d'Aurel.
En quoi est-ce que ça vous regarde ? Ce n'est pas parce que vous squattez l'appartement de Cyriane, avec ou sans son consentement, que vous êtes autorisé à me poser ce genre de questions.
Oui, bien sûr, elle lui a cédé. Comment résister au charme ravageur du mâle dominant ?
Alors, j'appelle les flics ? Reprit Aurel en brandissant son téléphone portable.
Propose-lui de rester avec toi pendant les 3 jours si elle n'a pas confiance.
Restez ici jusqu'à son retour si vous n'avez pas confiance. Si vous croyez que j'ai que ça à faire.
Aurel se leva. Et, toujours le même tic,
tira à plusieurs reprises sur le bas de sa robe avant de marmonner « Tant pis pour lui ». Elle se dirigea vers l'entrée, entr'ouvrit la porte, hésita un petit moment, revint sur ses pas, ajouta d'une voix radoucie « Si vraiment vous connaissez Cyrienne, gardez pour vous ce que j'ai dit au sujet de son père, d'accord ?» La fille noire inclina la tête. « Vous connaissez mon prénom, mais je ne connais pas le vôtre. » « Léonie. » Aurèle fixa quelques instants la fille noire avec une curiosité teintée de méfiance, puis elle sortit de l'appartement en claquant violemment la porte derrière elle. Bon débarras, qu'elle aille au diable. Elle est vraiment très belle. Tu n'as pas à faire de complexe. Léonie, c'est ça? Au fait, tu veux que je te raconte la fin de l'histoire? Pas la peine. Tu parlais de la machine qui peut expédier une âme dans un autre corps. Tu n'es pas mon double. Tu es l'âme de celui qui habite cet appartement. L'âme de Cyrienne. J'avais raison quand je pensais être possédé par un esprit mauvais après les rendez-vous chez les hiboux. Ils parlaient, eux, d'effets secondaires de la molécule, de tendance schizophrénique. Eh, je ne suis pas un salopard d'esprit mauvais. Je voulais juste expérimenter l'aventure dans un corps d'emprunt, la perception du monde par d'autres sens, par un autre moi. J'ai cru devenir folle la première fois. Je me secouais comme une chienne pour me débarrasser de la voix qui résonnait en moi. La clandestinité fait partie du jeu. Si le corps d'emprunt savait qu'il transportait quelqu'un, il cesserait de se comporter de manière naturelle, et l'intérêt du voyage en serait considérablement amoindri. Et puis, personne ne se déclarerait volontaire pour recevoir pendant 4 jours l'esprit de quelqu'un d'autre, même pour 1 500 €. On est donc obligé de tricher. Ça veut dire que tu vas rester en moi jusqu'au prochain rendez-vous chez le grand hibou? Jusqu'à ce que tu me rendes à mon corps. Tu portes un enfant de 21 grammes, il paraît que c'est le poids de l'âme. Tu vois tout ce que je vois? Tu entends tout ce que j'entends? Tu sens tout ce que je sens? Tu touches tout ce que je touche? Tu goûtes tout ce que je goûte? Pendant 4 jours, ton corps sera mon corps. Pendant 4 jours, je vivrai par tes yeux, par tes oreilles, par ton nez, par ta bouche, par tes mains. J'ai un peu de mal à te croire. Si je te raconte tout ce que tu as fait depuis que tu es sorti du laboratoire, est-ce que tu me croiras? Tu es allé dans une sorte de labyrinthe de carton à l'intérieur d'une cave d'immeuble. Tu as découvert le cadavre égorgé d'un vieil homme. Tu as entendu le souffle du meurtrier. Tu n'osais pas bouger tellement tu avais peur. Il a allumé sa lampe. Il t'a dit de partir. Il portait des cahiers sous son bras. Tu t'es enfui. Tu t'es réfugié dans le square. Tu t'es couché au pied d'un arbre dont les branches basses touchaient le sol. Tu as été réveillé par un chien qui te flairait l'entrejambe. Tu es allé dans un troquet où tu as pris ton petit déjeuner. Tu es descendu aux toilettes. Je t'ai vu pour la première fois dans un miroir. Je t'ai trouvé vraiment belle. Tu es remonté. Tu es tombé sur ces 3 flics en train de boire un café au comptoir. Tu as paniqué, ils l'ont remarqué. Ils t'ont demandé tes papiers, ils t'ont embarqué au commissariat. Je t'ai suggéré d'appeler Johannes, tu connais la suite. Tu me crois maintenant ? Léonie était figée sur le lit, trop stupéfaite pour émettre la moindre pensée, pieds et mains glacés malgré la température agréable de l'appartement. D'un autre côté, il ne lui avait rien appris qu'elle ne connût déjà. Peut-être, mais les codes pour entrer ici, tu ne pouvais pas les connaître. Un argument imparable. J'ai une foule de questions à te poser. La première, qui me turlupine depuis un petit moment. Tu sais ce qu'il y avait dans les cahiers emportés par le meurtrier du vieux clochard? Les poèmes et les autres écrits d'Anselme. C'est donc pour ça que j'ai vu ces pages emplies d'une écriture enfantine quand tu t'es retrouvé face au tueur. Quoi? Tu peux aussi entrer dans ma mémoire? Seulement dans ta mémoire vive, quand les souvenirs remontent à la surface. Je n'ai pas accès aux souvenirs enfouis dans ta mémoire dormante. Je suppose que, si je restais plus longtemps en toi, je finirais également par y accéder. Ça veut dire que je n'ai plus aucune intimité. De la même façon que tu ne peux rien cacher à ta conscience, tu ne pourras rien me cacher pendant 4 jours. Je m'enfermerai avec toi dans les toilettes, dans la douche, et si tu étais avec un homme, je... Cyrienne s'interrompit. Une multitude de souvenirs liés aux hommes déferlaient dans l'esprit de Léonie. Elle avait été dans leurs mains une poupée noire qu'ils pouvaient plier et tordre à leur guise, les porcs. Ils n'avaient pas tué en elle tout espoir, tout désir. Ils ne l'avaient pas flétrie, mais ses blessures n'étaient pas cicatrisées. Elle était une fleur piétinée dont les pétales n'avaient pas été arrachés. Elle pouvait encore se relever, se déployer dans tout son éclat. Les porcs, je comprends. Mais pourquoi les hiboux? La première fois que je suis venu au laboratoire, les techniciens, avec leurs lunettes rondes et leur air sérieux, m'ont fait penser à des hiboux. De quel pays viens-tu?
Du Libéria.
Quand es-tu arrivé en France?
J'avais 8 ans. C'est ma tante, la hyène, qui m'a acheté à mes parents pour m'enfermer dans une chambre de son pavillon et me livrer à ses clients.
D'autres scènes éprouvantes se succédèrent dans l'esprit de Léonie. Elle se retrouva dans les pattes d'hommes aux gestes offensants.
J'y suis resté environ 12 ans.
Les larmes roulèrent sur ses joues.
Je me suis enfui le jour où tant destinée, la hyène, et son amant Lucius, le pan, ont oublié de refermer ma chambre à clé et se sont endormis sur le tapis du salon complètement sous.
Tu as donc 20 ans?
Plus ou moins, je n'en suis pas sûr.
Que comptes-tu faire maintenant?
Je n'en sais rien. Je n'ai plus de papier, ni vrai, ni faux. Je voudrais bien rester en France. Je n'ai pas envie de retourner au Libéria, c'est la guerre civile là-bas. Et puis, je ne connais plus rien, ni personne au pays.
C'est curieux de discuter avec quelqu'un à l'intérieur de soi, ça me gêne.
Je n'ose plus aller aux toilettes, j'ai pourtant très envie de faire pipi.
Tu vois que le comportement du corps d'emprunt se modifie lorsqu'il est conscient d'héberger une autre âme?
Fais comme si je n'étais pas là. Alors, cesse de parler le temps que j'aille aux toilettes.
Je ne parle pas, je pense.
Alors? Cesse de penser, s'il te plaît.
Cyrienne était partagée entre 2 sentiments. Une part de lui, l'aventureuse, souhaitait que son vaisseau sorte de l'appartement pour accomplir un nouveau périple. Une autre part, la prudente, l'incitait à ne pas bouger jusqu'au jour et à l'heure du second rendez-vous. Léonie, elle, avait besoin de récupérer. Elle dormit une grande partie de l'après-midi, puis, réveillée par les sons technoïdes du fils maugrelier et les protestations suraiguës de sa mère, elle alluma la télé et s'absorba dans la contemplation des images, indifférente aux pensées de son hôte, retirée très loin en elle-même, inaccessible. La fermeture totale était un réflexe possible du corps d'emprunt. Johannes avait parlé à Cyrianne de ce type de réaction proche de l'autisme. Le corps d'emprunt percevait en lui une présence étrangère, inexplicable, et plutôt que d'affronter l'intrus, il choisissait de se verrouiller, de ne conserver qu'une flamme minuscule d'attention, un peu comme la veilleuse d'une chaudière à gaz. Le voyageur se retrouvait dans un organisme quasi vide, dépourvu d'émotions, et n'avait plus qu'à prier pour que son vaisseau n'oublie pas le second rendez-vous. L'aventure devenait une galère et, le plus souvent, le voyageur clandestin, une fois revenu dans son corps d'origine, jurait de ne plus jamais craquer 15 000 euros pour expérimenter une telle trouille. La faim tira Léonie de sa torpeur. Elle se leva, resserra le peignoir et se dirigea vers le frigo. « Fouille dans le congélateur, » suggéra Cyrianne. « Tu y trouveras des plats cuisinés qu'il te suffira de réchauffer au micro-ondes. Je te dirai comment faire. » Elle obtempéra, signe qu'elle n'était pas emmurée dans sa forteresse. Elle devait seulement surmonter une terreur fondamentale. L'esprit qui la parasitait pouvait prendre le contrôle de son corps, l'utiliser à des fins inavouables, la précipiter dans les mondes infernaux. Elle choisit un poulet cuisiné à l'indienne, et, suivant les indications de Cyrianne, le fit réchauffer 10 minutes dans le four. Elle s'efforçait de ne porter aucune attention à l'agitation de son hôte, pas très chaude pour reprendre une conversation silencieuse et déstabilisante. Puis, alors qu'elle soufflait sur le poulet au curry pour le refroidir, elle pensa soudain. « Toi, tu sais comment je suis.
Moi, je ne sais pas comment tu es.
C'est vrai que j'ai un avantage sur toi, mais tu peux voir des photos de moi sur mon ordinateur.
Je ne me suis jamais servi d'un ordinateur.
Rien de plus simple, je te montrerai. » Elle alla s'asseoir devant le bureau où trônait l'ordinateur portable en emportant son assiette avec elle. Cyrianne aurait hurlé en temps ordinaire. Il avait un sens très particulier de l'ordre. Les vêtements sales pouvaient s'entasser et la vaisselle pourrir dans l'évier pendant 2 semaines. Il ne supportait pas la vue d'une assiette pleine de nourriture fumante près de son ordinateur ou d'un autre appareil électronique. Il ne protesta pourtant pas. Les vieilles obsessions perdaient leur importance dans son corps d'emprunt. Il lui apprit à se servir du pavé tactile et des touches de l'ordinateur. Les doigts malhabiles de Léonie peinaient parfois à exécuter ses consignes. Elle s'arrêtait pour avaler une bouchée de poulet et de riz entre chaque progrès. Cyrianne ne s'en irritait pas. Il redécouvrait la saveur d'un plat qu'il avait pourtant mangé à de multiples reprises. Il lui plaisait d'apprendre quelque chose à Léonie. Il lui plaisait d'être admis dans son intimité sans qu'elle ait la possibilité de l'enchasser. Il était toujours resté à la porte d'Aurel. Il s'était agi entre eux d'un simple jeu de séduction, deux mondes qui s'étaient attirés sans jamais se rencontrer. Deux mondes qui avaient chacun tenté de plier l'autre à ses désirs. Léonie réussit à ouvrir le fichier et à faire défiler les photos en diaporama. Les premières d'entre elles montraient un jeune homme blond aux yeux d'un bleu très pâle et au teint hâlé. « C'est moi. Tu es beau. On dirait un ange. »«
Un ange ?
Faut pas se fier aux apparences. » Les photos défilaient. Le jeune homme apparaissait torse nu en compagnie d'une femme blonde aux yeux bleus, d'un homme brun aux tempes grisonnantes et aux yeux sombres, d'une jeune fille aux cheveux noirs et aux regards malicieux.
« Mes parents et ma sœur. »
C'est de lui, mon père, qu'Aurel parlait tout à l'heure. Il est
vieux,
plus proche de 60 ans que de 50, mais certaines filles préfèrent les hommes mûrs. Aurel s'affichait en maillot de bain, puis quasiment nu, puis dans les bras de Cyriane. Léonie fut à nouveau saisie d'admiration.
« Tu ne l'aimes vraiment plus ?»«
L'amour, je ne sais pas ce que c'est. »«
Moi, je croyais l'avoir trouvé avec... »«
Qui ?»«
Il s'appelait Denis. » Il habitait dans un squat du 20e. Il a été flingué par les flics avec les autres Bulls.
Des images s'associaient aux pensées de Léonie. Cyriane entrevit un grand noir au regard doux, un baiser refusé dans une chambre minuscule sous les toits, des corps étendus dans un grenier en partie défoncé.
Le seul homme qui était doux et gentil avec moi.
Il faut que j'appelle Jacques. Visage d'un jeune noir coiffé d'une casquette de travers. Il peut m'avoir des faux papiers.
« Combien il t'en demande ?»«
800 euros. »«
800 euros, des faux ?»«
C'est une meilleure solution. »« Johannes, lui peut se débrouiller pour t'en procurer des vrais qui ne te coûteront pas une thune. »«
Le grand hibou ?»
Visage de Johannes, zoom prolongé sur ses yeux couleur d'eau sale, énigmatique, inquiétant.
« Je ne l'aime pas, il me fait peur. »«
C'est pourtant grâce à lui que tu as pu sortir du commissariat ce matin. » Léonie se retira loin en elle-même. Cyriane crut l'avoir perdue pour un bon bout de temps, mais elle rétablit rapidement la liaison entre son esprit et son corps. « Il peut vraiment m'avoir de vrais papiers ?»«
Ça vaut toujours le coup d'essayer, tu crois pas ?»
Elle se releva d'un bond, fila dans la salle de bain, récupérer ses vêtements propres dans le sèche-linge.